Bonjour, donc nous nous retrouvons comme une fois par mois pour parler des livres dans l'émission sur Fréquence Mistral, les livres ont la parole. Alors cette fois-ci, on ne va pas recevoir un auteur, ni un éditeur, ni un libraire, ni un lecteur, ni un bibliothécaire, mais quelqu'un qui donne la parole au livre, c'est-à-dire qui le fait monter aussi sur scène, c'est une comédienne, Laure Bruneau. Bonjour Laure.
Bonjour Jean.
Bon, donc Laure, ça fait un moment que vous montez sur scène. Il y a forcément des écrits. Au départ, pour le théâtre, il y a toujours des écrits.
Pas forcément. Il y a des écrits, mais il y a aussi des créations pures, c'est-à-dire qui partent du travail qui se passe entre comédiens dans la salle de répétition. Mais c'est un choix de départ, en fait. Soit on part à partir d'un écrit, soit on part à partir d'une création pure. Voilà, on crée soi-même les dialogues, etc., etc.
D'accord. Et là, donc, vous avez créé un certain nombre de vous avez porté un certain nombre de livres au théâtre. Bon, ce qu'on connaît le plus, nous, de vous, c'est l'Homme Semence, que vous avez porté au théâtre dans les premières à avoir porté ce texte. Mm-hmm. Ouais. Et puis d'autres textes. Et là, vous travaillez sur un projet d'un texte de quelqu'un qui est de Digne, ici, qui est donc Maria Borelli.
C'est ça. Donc en fait, ça sera le troisième, à partir du troisième livre, une troisième création à partir d'un livre. Donc effectivement, le premier, c'était L'Homme Semence, texte que nous avons rencontré en 2008. Mm-hmm. Ensuite, il y a eu Marseille Rouge Sang. Et puis, ça sera peut-être, bientôt, j'espère, Sous le vent de Maria Borelli.
D'accord. Alors, les textes, c'est des choix coup de cœur, c'est vous sentez dans les personnages, comment ça se passe en général, comment on décide de porter sur scène un livre, qu'est-ce qui se passe en fait?
Alors, en ce qui concerne L'Homme Semence, effectivement, ça a été un coup de foudre même, un coup de cœur, mais même un coup de foudre. C'est à la première lecture donc de ce texte. En rentrant, en fait, je l'ai lu dans la voiture, hein, je conduisais pas, donc je l'ai lu entre le chemin du retour de la librairie où nous l'avions acheté et la maison. Et arrivé à la maison, c'était une évidence que il y avait quelque chose à faire et que, voilà, que le personnage de Violette, j'avais envie de le porter, de dire les mots, de raconter cette histoire fabuleuse. Ça, c'était évident. En ce qui concerne Marseille Rouge Sang, ça a été plutôt la rencontre aussi avec Eric Schultes, donc avec l'auteur de ce texte. Laure, ici, à Digne, lors des rencontres pour L'Homme Semence, c'est là où nous avons rencontré Eric pour la première fois. Et c'est lui qui nous a, qui nous a dit, moi aussi, j'écris quelque chose. Enfin, on ne sait jamais, je vais vous l'envoyer. Et là, pour Maria, pour Sous le vent, c'est pareil. C'est aussi une énorme émotion à la lecture de ce texte. Donc, c'est vrai qu'on peut dire qu'au départ, ce qui donne l'envie, en fait, c'est forcément une émotion, c'est le cœur qui parle, quoi.
Mm-hmm. Bon, ça, c'est la première étape.
Et
après, on se dit, bon, maintenant, on a un texte. On peut pas toujours dire un texte en entier ou bien il s'y prête pas. Il y a pas tous les textes de livres ne se prêtent pas à théâtre.
Mais bon, en ce qui concerne l'homme semence, oui, c'est l'intégralité du texte. Mais je pense que ce qui fait aussi que ça peut fonctionner, c'est que dans tous les choix là qu'on a fait de livres et qu'on a porté donc sur scène, c'est qu'à chaque fois ce sont des textes qui donnent aussi bien, je pense, à voir des images, à entendre. Il y a aussi ils transportent aussi avec eux des sons. Il y a à sentir un pays, une façon de vivre, à ressentir en fait. Puis à goûter justement à une ambiance. Ils mettent en action nos sens, nos cinq sens. Mmh. Donc forcément, déjà, ça devient plus facile ensuite pour bâtir quelque chose ou pour se construire à partir de ça. Et puis, ce sont aussi des histoires qui nous racontent, qui parlent à nos cœurs, qui nous racontent aux deux... qui nous parle d'humanité, donc c'est à partir...
Puis de la nature,
de l'environnement.
Voilà, l'écosystème dans lequel on vit, la campagne.
Exactement.
Voilà, D'accord. Donc, première chose, on laisse monter des choses. Puis après, il faut bien préparer un spectacle. Alors, vous n'êtes pas tout seul. Vous êtes dans une troupe qui mm-hmm. est Bazar Compagnie.
C'est ça.
Qui est à Mazan, du côté de Carpentras. Et donc, il y a aussi d'autres personnes dans l'équipe avec lesquelles vous travaillez. Donc, Paul Bruno en particulier, qui est... travaille avec vous. Et donc, il y a un échange qui se fait quand on construit quelque chose, ou bien est-ce qu'il y a quelqu'un qui démarre tout seul?
Non, c'est un travail donc à plusieurs. C'est vraiment un travail donc avec Paul Bruno, qui en général fait souvent la mise en scène. Mmh. Et ensuite aussi avec la musique, sur l'homme semence, c'était avec une musicienne. Mmh. Alors là, nous avons travaillé vraiment. Donc, on s'est basé vraiment sur le texte, et c'est à partir de notre ressenti à chacun, en fait. Donc, en travaillant petit morceau par petit morceau, c'est vraiment se plonger dans l'ambiance, se ressentir vraiment ces personnages, ce qui se passait, enfin. Cette vie de femme, cette communauté, cette absence d'homme, etc. Comment nous, ce que ça nous renvoyait, en fait, à notre... Mmh. On travaille vraiment à partir de ce qu'on ressent tous. Là, dans l'homme semence, après, c'est Paul qui a mis en scène, qui nous a proposé, en fait, une mise en scène, une façon de mettre les choses en place. Voilà. Mais sinon, c'est vraiment à partir du ressenti en général des comédiens et aussi des musiciens, enfin des personnes qui vont vivre sur le plateau l'histoire, qui vont porter l'histoire sur le plateau.
Donc il y a d'abord quelque chose qui sort comme ça, comme un peu un volcan, et puis après il y a quelqu'un qui travaille sur la mise en scène, qui va remettre tout ça un peu dans des choses qui sont compréhensibles par le public, c'est-à-dire essayer de faire quelque chose de construit.
Oui.
Construction.
C'est ça. En fait, pour ce qui était Marseille-Urgesson, c'était moins évident en fait au départ. Donc, ce sont des petites nouvelles. Hein, oui. Marseille, c'était assez court aussi. On a travaillé à trois, donc avec Paul Bruno et Frédéric Chiron, qui est aussi comédien, qui habite à côté de chez nous dans le Vaucluse, et donc moi. Et on a fait beaucoup de lectures. En fait, on s'est mis à table et on a lu les textes, on les a relus. On en a choisi quelques-uns aussi. Et c'est vraiment à partir de la lecture là qui a émergé, les personnages ont émergé. Les images, quand je parlais de voir, donc les images de ces personnages, la ville, Marseille, puisque ça se passe à Marseille, était très présente. Les sons, enfin voilà. Donc c'est vraiment là à partir de lecture. Donc c'est tous les trois aussi finalement qui étaient... Personne, en général, ne nous dirige du début à la fin. C'est vraiment aussi un mélange et un partage de ce qu'on ressent. Bon, même si c'est vrai qu'après, il y a quelqu'un qui mène le projet un peu plus que les autres. Voilà.
Donc, mais justement, on lit un livre, souvent en silence, mais après, là, vous venez de parler de lecture à haute voix. Mm-hmm. C'est-à-dire, on lit à haute voix et on découvre des choses différentes. Découvre des choses nouvelles. Enfin, il y a des sons qui provoquent quelque chose.
Oui, il me semble qu'il y a quelque chose qui se met un peu plus, qui prend un peu plus peut-être de relief avec la lecture à haute voix, effectivement. Peut-être le fait d'emplir l'espace, que la voix remplit l'espace. Il y a des choses qui se mettent en mouvement, enfin... Il me semble que lorsque on est couché tout seul avec soi et qu'on lit pour soi, quoi, et lorsqu'on commence à exprimer à haute voix le texte, il y a des choses qui ressortent, les personnages sont là, les lieux sont là, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, les sons, les odeurs, enfin, il y a des choses qui se mettent plus. Plus en mouvement, c'est
d'accord.
Ça. C'est une mise en mouvement, en fait, je dirais, peut-être, de ce qui est écrit ou qui commence à se verticaliser,
oui.
En fait,
oui,
peut-être.
Bah oui. Parce qu'on est sur une surface complètement plate, une feuille de papier.
C'est ça.
Et puis, on a l'impression qu'il y a des personnages qui se dressent sur le papier, dès qu'on... éventuellement.
Oui, c'est ça. C'est vraiment ce ressenti-là. On a vraiment... Ça prend vie, en fait, beaucoup plus, quoi. C'est beaucoup plus fort, finalement, lorsqu'on fait une lecture à haute voix, il me semble.
D'accord. Eh bien, on va écouter un petit peu de musique pour... on était en train d'écouter une version jazz manouche du Boléro de Ravel par le groupe Les Doigts de l'Homme. Donc c'est un morceau, évidemment, le Boléro de Ravel qui a été repris par beaucoup, beaucoup de gens. Et là, une version très intéressante dans un autre style de musique que l'original. Donc on retrouve sur Fréquence Mistral l'émission Les Livres ont la Parole avec aujourd'hui notre invité qui est donc Laure Bruno de la compagnie, donc comédienne de la compagnie Bazar Compagnie près de Mazan. Et on parlait justement de cette façon que la troupe a, entre autres, hein, fait bien autre chose, mais de porter sur scène des livres qui sont des livres, parce qu'on peut aussi jouer sur scène des pièces de théâtre, des choses qui ont été écrites pour ça expressément. Alors que là, c'est une façon de transporter des écrits papier, on disait tout à l'heure, à plat, et qui prennent du relief à partir de, je sais pas, de ressentis, et les choses se dressent comme les trucs. Alors, donc, il y a un travail que vous menez à plusieurs, et vous parliez de musique aussi, on vient d'en écouter, et la musique, c'est important dans les créations que vous faites ?
Oui, ça a toujours eu une énorme, une grande place, c'est en général assez indissociable de notre travail. Le plus souvent possible, bien sûr, un musicien en live, voilà, qui est aussi présent sur scène, et qui, en général, crée aussi la musique à partir de ce qui va se passer sur le plateau, à partir de son ressenti aussi, de ses images, de ce que lui renvoie le texte. Mmh. C'est toujours là. Après, bon, des fois, je pense à Marseille Rougessant, on a suivi, par contre, les indications musicales de l'auteur du livre, puisque c'était là, pour le coup, très précis, et qu'en fait, Eric Schultes avait proposé une musique à chaque lecture, et on a accompagné.
Chaque nouvelle, il propose un choix musical pour chaque nouvelle. Voilà, qu'on l'écoute ou qu'on l'écoute pas en lisant.
Il propose de l'expérience, mais c'est pas obligé de la suivre. Et par contre, nous avons gardé les musiques pour Enfin, lorsqu'on joue, les sketchs sont accompagnés des musiques choisies par lui, d'accord, qui vont très bien d'ailleurs les personnages.
Voilà, sûrement. Donc toujours musique présente, souvent live, c'est-à-dire avec un musicien
qui
crée en direct. Bon, sinon, donc pour revenir au travail sur le texte. Il y a parfois des textes qui ne sont pas de façon lue ou dit de façon intégrale. Comment on fait pour... qu'est-ce qui se passe, quoi ? Comment ça vient, je veux dire... Comment on décide, par exemple, un livre entier qui fait pas mal de pages, on sait qu'on va pas pouvoir tout dire, qu'on choisit des moments dedans, on suit un fil, comment ça peut se passer?
Ça peut être toutes ces pistes de travail, c'est-à-dire soit dans le texte, on va tirer une substance, un fil, on va dire... dénouer un fil et qui va nous accompagner du début à la fin. Soit ça peut être juste un extrait choisi, si c'est vraiment très long, pour donner, qui va donner une partie, mais une partie qui sera travaillée en profondeur, en fait. Ou alors, on fait des coupures. Et ça, je pense que c'est difficile aussi. C'est un travail difficile de choisir. C'est subjectif, de toute façon, de couper. Mais il faut forcément, je pense... pas un travail qu'on a encore fait, mais qu'on va sûrement faire dans l'avenir par rapport justement à Sous le vent de Maria Borelli, qui est un texte assez long et dense, très dense. Donc la difficulté se pose justement de savoir comment on va pouvoir le verticaliser. Et est-ce qu'on va juste faire des coupures ? Le travail n'a pas encore commencé, mais c'est possible.
Oui, c'est pour ça que vous réfléchissez au devoir en même temps que nous.
C'est ça. En fait, il y a une histoire, donc il y a une histoire à suivre, il y a une progression dans l'histoire. C'est l'important, si on veut la raconter, de faire des choix judicieux pour qu'on puisse faire passer justement toutes les émotions et tout ce qui va aller avec cette histoire. Voilà, ou alors c'est juste une partie qui peut donner envie après d'aller plus loin aux gens qui auront vu le spectacle, donc de se pencher peut-être sur le livre aussi. je sais pas.
Mais est-ce qu'on peut imaginer de pas du tout utiliser le texte, c'est-à-dire utiliser l'histoire?
Oui, je pense.
Oui.
On peut peut-être, à la façon comme font souvent les conteurs, en fait, c'est-à-dire avoir une trame, mm-hmm. et puis aller dans cette trame et soi-même la travailler,
oui.
en fonction de ce qu'on est. De... Mais là, on perd un petit peu la
oui.
langue de l'auteur.
Voilà, c'est
on
ça,
perd
oui.
quand même un petit peu... C'est dommage, surtout quand on a un texte de Maria Borelli entre les mains, de pas oui. faire passer sa langue, son écriture. Et c'est quand même aussi ce qui est pour nous, je trouve, intéressant, c'est de passer ces textes, de
oui,
passer
oui, oui.
Cette littérature, enfin ces écrits. Oui. Mais bon, le choix est possible aussi, en fait. Ça serait plus une adaptation à ce
oui,
moment-là, d'être voilà, de se placer en tant que conteur et de broder autour de l'histoire, même peut-être en imitant des petits morceaux aussi, mmh. des petits extraits. Mais bon, je ne crois pas que ça soit ce qu'on fera, mais bon, voilà, ça fait partie des possibilités de travail, en fait, des pistes de travail, c'est vrai.
Oui, oui, non, c'est vrai que sous le vent, bon, il y a un texte qui est assez incroyable,
oui. voilà.
Et donc c'est vrai que ça serait dommage de passer à côté, de ne pas faire goûter. Et c'est vrai qu'on alors ça nous arrive, nous, fréquemment, dans des différents... dans les soupes olives, par exemple, de lire Maria Borelli, et on s'aperçoit tout de suite, il y a pas beaucoup de textes qui sont comme ça, qu'il y a une espèce de silence qui fige mmh. les gens qui sont là, parce que la langue, elle a une résonance, elle parle très fort, quoi, et puis elle occupe le cerveau des gens, c'est-à-dire ils peuvent pas faire autre chose que d'écouter. Voilà, c'est cette langue de Maria Borelli est pas facile à lire à haute voix. On s'aperçoit que c'est pas toujours facile à lire à haute voix, mais qu'il se passe quelque chose tout le temps avec les gens présents.
Ben, je pense. Alors pour le coup là, j'ai pas encore fait l'expérience de le lire moi à haute voix. Ça va faire partie certainement du travail à venir, de relire le texte à plusieurs. C'est quand même toujours mieux d'être à plusieurs aussi, de le lire à haute voix. Et puis après, de voir, c'est une question de résonance en fait en nous. Je pense que quelle sera la piste de travail à choisir. Et ensuite, ce qu'on va faire pour garder en fait, être le plus fidèle au texte. C'est ce qui est intéressant finalement lorsqu'on a des auteurs comme ça, c'est d'être fidèle au texte et à leur écriture. Mais bon, forcément, on ne va pas pouvoir se lancer sur un spectacle de 2 heures, 2 heures et demie, ça fait beaucoup trop long,
oui,
même
oui.
si c'est beau. Il faut rester dans une limite, je trouve. Enfin, en tous les cas, c'est nous, notre parti pris en tant que compagnie théâtre, c'est de ne pas proposer non plus des spectacles trop longs.
Mm-hmm.
Ça se peut, hein, ça existe hein, aussi, mais c'est quand même aussi notre performance, quoi. Voilà, donc à voir, mais je pense que la piste de travail sera de garder en fait cette histoire avec ses personnages principaux, le vent bien sûr aussi qui accompagne le texte tout le long, puis l'histoire de Marie et de sa rencontre, et voilà, ça sera sûrement ça qui va se passer, mais bon, peut-être pas finalement, je dis ça sans avoir vraiment travaillé, mais c'est ce qui me vient maintenant.
D'accord.
Mais bon, en tous les cas, je le redis, à chaque fois qu'on a mis en théâtre, enfin sur scène, un texte d'auteur, notre souci a quand même été aussi de transmettre le texte le plus pur possible, enfin voilà, de faire vraiment passer l'écriture dans l'oralité.
Oui, de toute façon, c'est cette écriture qui vous avait touché de toute
ça,
façon.
Exactement.
Donc c'est à partir de ça que vous vous êtes déclenché. Donc c'est sans doute la meilleure façon de faire, c'est de rendre à tout le monde ce que vous avez reçu, quoi, en fait.
Exactement.
Ouais.
Il me semble que c'est la plus belle des façons de faire passer un livre. C'est de le faire de cette façon-là, voilà, sans vraiment le transformer, parce qu'après c'est tellement subjectif aussi qu'on peut perdre complètement en fait l'essence du livre, quoi, ce que l'auteur a voulu nous dire.
Alors justement, c'est quand même il y a un gros danger aussi hein. Quand on lit un livre, bon, il existe, il est entier. Quand on en fait un spectacle et qu'on coupe oui. dedans, on prend dedans, et on prend le risque aussi de passer à côté, quoi. Ça, c'est un danger.
C'est sûr. Mais bon, en fait, oui, on a. Ça fait partie des dangers de passer complètement à côté de l'histoire, en fait. Mais bon. Alors, c'est toujours subjectif oui. toute façon, parce qu'on a tous, on reçoit tous quelque chose en fait d'une histoire, et on est tous touchés plus ou moins par un aspect en fait ou un côté de l'histoire. Alors on peut faire aussi le choix d'aller plus dans quelque chose qui nous aura semblé important, mais qui l'est pas forcément. Alors que finalement, si on reste le plus près aussi du texte, c'est là où on a le plus de chances de faire passer toutes les émotions aussi du texte.
Bon, après, c'est sa propre interprétation, c'est-à-dire on peut avoir, comme au cinéma, on rencontre souvent ce phénomène-là, au cinéma, il y a des gens qui disent « Ah, mais le film m'a déçu par rapport au livre, on peut décevoir des gens. »
Bien sûr.
Voilà. Mais en fait, c'est une proposition que l'on fait, son interprétation, c'est toujours une proposition que l'on fait.
C'est ça, une proposition artistique, de toute façon, quoi qu'il en soit. Mmh. De toute façon, je pense qu'on va quelque part apporter aussi, même si on veut rester le plus pur possible, on va de toute façon apporter son prisme, sa sensibilité, sa façon de voir les choses, quoi qu'il en soit, ça me paraît obligé.
Oui, oui, mais comme on vient de l'écouter avec le Boléro de Ravel par un groupe de jazz, voilà, on peut. Il y a des gens qui vont dire, mais pas bien du tout. Moi, je trouve que c'est déformer les choses. Voilà.
Puis je pense qu'on le voit aussi, L'Homme Semence, c'est un très bel exemple, puisqu'il y a maintenant, il me semble, pas mal de compagnies qui jouent ce texte, ou qui le dansent, ou qui... Et à chaque fois, c'est différent. Et à chaque fois, ça, je pense que le postulat de départ est le même, c'est de porter ce texte de toute façon, et de le faire connaître, parce qu'il a touché, mais on n'est pas tous pareils, et heureusement.
On n'est pas tous pareils, et les lieux ne sont pas tous pareils. Et ce qui change aussi, parce que nous, on en a vu un certain nombre d'interprétations. On a, par exemple, vu une interprétation de L'Homme Semence à Bruxelles, juste après le lendemain des attentats de Paris. Au moment où c'était la folie dans Bruxelles, ils couraient après les terroristes, et donc les premiers jours de spectacle ont été annulés, et quelques jours après ils ont rouvert les théâtres, et on a pu voir, donc dans des conditions où effectivement il y avait on a traversé une ville qui était remplie de militaires, quoi. Devant le théâtre il y avait des camions militaires, c'était des circonstances un peu particulières, et ça prend une dimension dans cette salle, et il y avait quand même plein de gens qui étaient venus, parce que la vie ne s'arrête pas. Du coup, ça prend une dimension. Ça rappelle aussi le coup d'État, des choses comme ça. On se sent dans un état un peu particulier. Et il n'empêche que la comédienne qui était sur scène nous envoie ce texte avec aussi des rires et puis du bonheur, de la joie de vivre. Voilà, c'était. Je crois que c'est pas pareil. Les interprétations sont différentes, et en même temps, les circonstances font qu'on peut le recevoir différemment, quoi. Voilà. Bon, enfin, c'est moi qui parle. On va écouter encore un petit peu de musique.
I'm crying the blues over you with no one to tell my troubles to. Well, down in the village of France, Pierre, Marie, and Veronica. Well, I'm begging, begging, won't you please come along?
I just can't forget your lovely charms. Well, down in the village, Pierre and Marie and Veronica. Crying the blues over you in France, Dian, Pierre, Marie, and Veronica, down in France, Dian, I love you so. So lonesome, I feel like I want to cry. Oh, I'm so lonesome, feel like I want to cry. Well, because my baby.
Alors, on vient d'écouter un morceau de jazz qui s'appelle Digne, hein, qui, carrément, par le San Francisco Blues Festival. Quand ils sont venus à Digne, ça leur a inspiré la ville de Digne et ils ont proposé carrément. Et donc maintenant, ils vont dans le monde entier. Et dans le monde entier, on connaît la ville de Digne et grâce à eux, c'est formidable quand même. Donc on retrouve notre émission Les Livres ont la parole sur Fréquence Mistral avec donc Laure Bruneau qui est comédienne. Et donc on expliquait justement que monter sur scène avec un texte, un livre, parce que c'est des choses que vous avez fait plusieurs fois, on a ce risque d'avoir des gens qui ont lu le livre comme au cinéma et qui... Alors, est-ce que ça vous est arrivé qu'il y ait des gens qui disent « Je suis déçu, j'aime pas ça, je l'aurais pas vu comme ça ». Bon, pour L'Homme Semence, le texte est intégral, mais dans d'autres conditions...
Ben non,
est-ce que vous avez des réactions ?
Des réactions, oui, beaucoup, mais en général, surtout pour L'Homme Semence, ça a toujours été plutôt positif. Et voire même... beaucoup de personnes qui ont pris le livre après le spectacle, qui se sont procuré le livre. Et donc ça, après, souvent, je ne les ai pas revus pour savoir ce qu'ils en avaient pensé. Mais quelques-unes qui m'ont dit souvent qu'il y avait ma voix qui résonnait dans leur tête, en fait, à la lecture des livres. C'était ils revoyaient, ils réentendaient, en fait, le spectacle. Comme quoi, les images aussi ont une forte influence sur nos images, imagination, tout ça. Ou en tous les cas, ce ne sont pas manifestés à moi, mais les personnes qui ont été déçues, je n'en connais pas. Quoi.
Oui, oui. Non, y a...
Donc, ils ont fait le parallèle se fait de toute façon,
oui.
je pense, entre la lecture et le spectacle, et le visuel. Et... Parce qu'en fait, nous rajoutons finalement que des images, finalement, et la voix, mais...
Oui, oui. Non, mais il y a votre personnage. Il y a des gens qui se disent, moi, Je l'aurais pas vu comme ça.
Oui, alors il y a des fois, ce qu'on a eu, c'était, moi je pensais qu'il y aurait eu des hommes ou qui attendaient autre chose en fait, parce que finalement je suis seule en scène dans L'Homme Semence, c'est avec la musicienne qui s'attendait peut-être à quelque chose de plus choral aussi, avec plusieurs femmes. C'est vrai que chacun se fait, l'imagination travaille en chacun et c'est tant mieux. Mais voilà, déçue, je pense pas.
Donc, mais c'est le risque, de toute façon, à partir du moment même, son propre personnage, vous êtes brune, les gens ne voient pas, parce qu'on est à la radio, mais vous êtes brune et peut-être qu'ils n'auraient pas fait que la comédienne soit blonde.
Bien sûr, ils ont peut-être imaginé blonde, forcément, ça c'est comme ça. Mais bon, comme on disait, c'est comme au cinéma, hein, c'est toujours... C'est peut-être la différence qu'on peut faire entre un texte qu'on a lu tout seul dans son intimité et qui a fait travailler son imagination le soir dans son lit ou dans son fauteuil et tout ce qu'on a pu, comment on a pu voyager avec et la proposition de quelqu'un d'autre. Donc des fois on s'y retrouve même si l'actrice ne correspond pas vraiment à ce qu'on pensait ou si on retrouve, je pense... l'essentiel, c'est-à-dire les sentiments que transporte ce texte, l'histoire et les sentiments qui vont avec. En général, ça fonctionne, il me semble.
Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de Eric Schultes, qui est un auteur vivant, donc vous avez rencontré. Et donc, c'est parti de la rencontre avec lui, avec une entente avec lui. Et donc, par contre, aussi, en travaillant sur ses textes, vous pouvez dialoguer avec lui. C'est-à-dire, il peut vous dire des choses et vous pouvez lui poser des questions. Avec un auteur qui n'est plus présent, il faut arriver aussi à se fondre dans... creuser, comprendre le personnage, l'auteur, essayer de comprendre ce qu'il a vécu.
Oui, je pense que c'est... En fait, que c'est important de se nourrir de ça aussi. De se nourrir le plus possible, de connaître un peu l'auteur, ce qu'il a fait peut-être un peu à côté, si on ne peut pas le rencontrer, s'il y a d'autres écrits, d'avoir du moins faire un peu un tour de ses écrits, de son environnement, en fait, de ce qu'il propose dans ses autres livres pour faire un peu connaissance avec la personne. C'est vrai que c'est peut-être difficile de dissocier un texte de son auteur, en fait. D'accord. Même si on veut le monter au théâtre, c'est important d'avoir la connaissance aussi le plus possible de l'environnement... dans lequel a pu naître l'histoire.
Surtout si on veut, c'est une question de respect aussi. Mais si on veut pas le trahir, quoi. Est-ce qu'on a son ombre? On a passé tout à l'heure, juste avant de venir à cette émission, on a passé un certain temps avec Paul Borelli, qui est la gardienne des textes de Maria Borelli et qui les connaît bien, qui est donc la belle-fille de Maria Borelli. C'est important pour vous de la rencontrer pour qu'elle vous dise des choses et vous êtes comme une éponge, vous avez aspiré tout ce qu'elle vous a dit.
Ben oui, bien sûr. En plus, nous avons donc eu la chance d'être reçus dans la maison où Maria Borelli a vécu. Donc ça a l'air de rien tout ça, parce qu'en fait, je pense que, enfin moi en tout cas, je ne sais jamais vraiment ce que je vais faire de tout ça, mais forcément ça agit sur nos perceptions, il se crée un lien en fait, un lien un petit peu d'intimité de toute façon avec le texte, mais aussi avec l'auteur. C'est essentiel, je pense, lorsqu'on porte après un texte à la scène, ou avec l'idée peut-être qu'on s'en fait, mais lorsqu'on a la chance de pouvoir le rencontrer, c'est encore plus fort.
Oui, mais d'ailleurs, ce qui était intéressant, c'est qu'intuitivement, Paul Borelli a dit, ben voilà, en dehors de ce meuble-là, les autres, c'est ceux de Maria Borelli, comme si elle sentait que vous aviez besoin de ça, les poutres au plafond, le choix qu'elle avait fait, de tout un tas de choses.
De
dans
nous
cette
la faire
maison.
Découvrir, voilà. En fait, de nous la faire connaître, de nous faire connaître un peu plus intimement, en fait, Maria Borelli. Et c'est un grand cadeau, c'est une grande richesse de pouvoir comme ça aller au plus près en fait, de ce qu'a pu être cette écrivaine. Et forcément d'imaginer comment ont pu naître ces histoires, dans quelle ambiance c'était, pourquoi elle a écrit même si on ne le saura vraiment jamais, mais bon, voilà, de se rapprocher au plus près, en fait, de ce qu'était la personne. Ça aide énormément parce que finalement, c'est aussi un peu une histoire d'amour aussi qui se passe, je pense, entre le texte, mais aussi entre celui qui l'a écrit. C'est vraiment un échange comme ça de sentiments. Voilà, ça serait peut-être plus difficile pour nous de porter à la scène un texte. On le ferait dans un autre esprit, un texte de quelqu'un pour qui on n'a pas d'affection. C'est autre chose. C'est notre travail. C'est peut-être plus politique à ce moment-là, ou plus engagé. Plus... Oui. Là, c'est... ouais, c'est une histoire d'amour, en fait.
Alors, on peut dire. Oui. Donc, l'autre... parce que le Bazar Compagnie, la troupe, c'est un toit à deux pentes, et on vient d'être rejoint par la deuxième pente du toit, qui est Paul Brulot. Bonjour, Paul.
Bonjour. Bon.
Et donc, Paul, vous travaillez surtout... vous êtes le metteur en scène de la compagnie. Et donc, travailler sur un texte qui est un livre, c'est quelque chose que vous avez fait plusieurs fois, mais dans lequel vous... C'est un engagement dans lequel vous êtes plus fréquemment en ce moment.
Oui, quelquefois je suis sur scène, j'aime bien être sur scène aussi.
Oui, oui, non,
j'aime bien aussi travailler avec la musique, etc. Mais c'est vrai que la mise en scène me passionne. Et que c'est un grand bonheur de se laisser couler dans le texte, dans l'auteur, essayer de devenir quelque part l'auteur et d'être le miroir pour les acteurs et les musiciens, pour que eux puissent aussi se voir dans ce que je renvoie pour avancer. Enfin, je sais pas si je me fais bien comprendre. Voilà, donc comme je le disais tout à l'heure, on est avant de venir là, nous sommes des passeurs, et donc il y a des passeurs de vie, des passeurs d'idées, des passeurs d'émotions surtout, parce que c'est la base de notre travail, c'est l'émotion. Alors après, quelque part, qu'on soit sur scène, qu'on soit à la mise en scène, qu'on soit derrière un instrument, enfin tout ce qui peut porter l'émotion et le partage. Nous scier, quoi. Voilà, c'est vrai que j'ai quelques facilités entre guillemets pour être à la face, comme on dit, à la mise en scène, mais que j'aime ça, mais bon, c'est pas ma place attitrée, voilà.
Oui, mais mettre en scène ou jouer, on en a parlé beaucoup avec Laure, il y a des pièces qui sont toutes écrites pour le théâtre, hein, donc il y a une mise en scène qui à partir de choses qu'on déroule sans intervenir sur le texte, tandis que là, vous partez d'un livre. Et un livre, vous devez plonger, ça c'est, il y a un travail de creuser, mais il y a aussi quelque chose qui est très différent, quoi, d'extraire quelque chose d'un livre, y compris l'ambiance.
Disons que souvent, nous fonctionnons avec un coup de cœur. C'est un coup de cœur. Un livre nous plaît, est-ce qu'il est possible que ce coup de cœur ressenti, on puisse le faire partager? Comment? Eh bien, imaginez un peintre qui démarre avec une feuille blanche. Donc, il va prendre son crayon, peut-être faire un croquis, rajouter des couleurs, et puis les couleurs ne vont pas lui plaire, donc il va les enlever, ou repasser par-dessus avec une autre. Ou un sculpteur, hein, qui va modeler des formes. Un sculpteur sur terre, par exemple, sur terre glaise, hein, la terre, ben, on va lui donner une forme, mais avant qu'elle sèche, on peut encore la... Et voilà, c'est un travail de couche, comme ça, on y revient, on repart, on corrige, on gomme, et puis bien sûr, à un moment donné, il faut que le travail soit terminé. On se lance, mais quelque part, c'est jamais terminé. Et c'est vrai qu'après, au cours des représentations, on se rend compte qu'il y a toujours quelque chose auquel on n'a pas pensé, qu'on peut rajouter ou effacer, et puis en fonction du retour du public. Parce que ça ne sert à rien de créer un spectacle pour une salle vide. Donc, bien sûr, nous donnons au public, mais nous recevons du public. Et inversement, le public reçoit de nous, mais nous donne énormément. Et c'est quelque chose qui est impalpable, mais qui est ressenti jusqu'au fond de nos tripes, cet échange-là. Et c'est cet échange-là aussi qui va nous nourrir pour faire évoluer notre travail et passer du mieux qu'on peut ce qu'on a aimé. Voilà.
D'accord.
Oui, même si à la base, le texte n'a pas été pensé ou écrit pour le théâtre. Mmh. Donc, peut-être plus facile, en fait, aussi. Mais ça n'a jamais été, jusqu'à présent, une difficulté de mettre en scène ou de jouer à la scène des textes, des bouquins. Enfin, ouais.
Oui, mais est-ce que c'est toujours... Est-ce que c'est le théâtre ? Pour moi, c'est la vie, quoi. Je sais pas, c'est donner vie à un livre. Je sais pas si ouais. le théâtre, c'est pas forcément le mot exact. Enfin, je sais pas.
Oui, on peut dire ça. Ouais. Peu importe. Ouais.
Bah, en fait, c'est
parce l'outil qu'on a choisi.
C'est voilà. Parce que ça passe par le corps et pareil, qu'on le joue sur une scène.
Oui, oui.
C'est
oui,
pour non, ça c'est qu'on pas peut appeler ça. Mais c'est donner. Oui, c'est donner vie tout simplement à une histoire. Mm. Est-ce que.
Oui, puis le si. On est bon, si on est bon, c'est-à-dire qu'on renvoie correctement, enfin, comme on veut le faire, ce qu'on a ressenti nous-mêmes, on doit toucher le public aussi. Et le public va être peut-être plus touché en... Parce que le public, lorsqu'il voit un spectateur, il regarde un spectacle. À un moment donné, il est assis sur un fauteuil, c'est comme au cinéma, hein. Il est assis sur un fauteuil, il y a une salle, il y a des projecteurs, son regard va balader un petit peu dans la salle, et à un moment donné, normalement, il va être complètement aspiré par ce qui se passe sur la scène. Mmh. Mais la scène, elle ne bouge pas. Mmh. Il y a toujours des prises de courant, des micros, éventuellement, des projecteurs, etc., des comédiens, des pantins qui remuent sur la scène. Mais il va être complètement aspiré par l'histoire, et c'est tout son imaginaire qui va se mettre en place, et il va complètement oublier cet univers-là. Comme quand on est pris dans un film, ou lorsqu'on lit un livre et qu'on est pris aussi par le texte. Notre travail, c'est ça. Et les retours qu'on a à la fin des spectacles avec des gens, quelquefois en larmes, où vous nous avez emmenés ailleurs. Mmh. J'avais lu le livre, mais j'avais pas du tout ressenti ces choses-là. Mais en vous écoutant, en vous voyant, avec mon ressenti, je suis allé beaucoup plus loin. Bon, mais le but est atteint. Mmh. Voilà. On essaye de faire au mieux. Oui. Après, oui. Nos choix de texte, ces coups de cœur,
oui.
C'est souvent des œuvres qui ne sont pas toujours connues ou peu connues. Peu importe, hein, c'est notre choix, mais c'est très difficile à vendre. Donc après, il faut vivre. Voilà. Et donc, pour vivre, eh bien, quand on monte un auteur connu...
Le gentilhomme de Molière.
Par exemple, bon, ce qui est très louable. Hein,
oui, c'est très beau.
On aime beaucoup aussi Molière. Bon, là, tu parles de Molière. Mais c'est beaucoup plus difficile pour nous, mais peu importe. Voilà, c'est notre façon de vivre, d'être. Ouais.
Oui, et est-ce que c'est pas plus que ça, c'est aussi, c'est pas simplement faire du théâtre pour jouer du théâtre, parce que bon, beaucoup de gens connaissent les textes de Molière, mais c'est justement, bon, faire découvrir des textes inconnus, ou peu connus, ou mal connus. Hein, dans le cas de Maria Borelli, c'est redonner vie aussi par une autre entrée à peut-être l'envie de relire les textes de Maria Borelli. Parce qu'il y a ce rôle-là que vous pouvez jouer aussi.
Bien sûr.
C'est de mettre donner un coup de projecteur. On va vous parler de prise de courant et de projecteur. Mmh. Donner un coup de projecteur. Parce que peut-être, y compris dans des générations qui ne l'ont pas lu, découvrir que... Et c'est quand même incroyablement fort, et que pour beaucoup de gens, c'était peut-être des livres vieux, quoi, des vieilleries.
Mmh. Oui, tout à fait. Hein. Oui, bah, en fait, le livre est vieux, mais l'humain n'est pas vieux, c'est toujours le même. Oui. Je crois que ce qui a été écrit au début de l'écriture, je dirais, quand on remonte au plus loin de l'Antiquité, l'espèce humaine est toujours la même. On oui. se rend compte que... Ben, on aime, on hait, on pleure, on déteste. Voilà, on ressent. Et l'homme est toujours le même.
Enfin, on peut quand même apporter une petite lumière sur une période aussi, sur une époque.
Oui.
Voilà, par exemple, dans Maria Borelli, il y a quand même aussi le monde paysan. Donc, on retrouve aussi des gestes, des choses qui appartiennent qu'à une certaine époque. Ça aussi, c'est... C'est beau, enfin, moi, je sais que ça me touche aussi de porter ça, de transmettre aussi ça, ces époques-là, ces gestes.
Oui, oui, oui.
C'est intéressant aussi.
Oui, mais ça même on retrouve. Moi, c'est marrant parce que bon, dans Sous le vent, Maria Borelli explique qu'à un moment, la mère de l'héroïne lui dit: as-tu donné les branches d'olivier aux brebis? Et comme nous, on a des brebis, ça nous a, quand on fait ce geste-là, on pense immédiatement à elle. C'est dire, ça vous rentre, ça vous reste, quoi. Quand on retrouve le geste qui est décrit dans un livre, dans d'autres circonstances aussi, c'est ça. Voilà. Ce qui est, donc un texte quand même, un texte comme ça, qui est un texte fort, qui, ça va vous demander un certain temps pour le digérer, le préparer. Alors, Bruno, tu disais que au fur et à mesure des représentations, on peut changer des trucs, mais avant la première représentation, il y a du boulot.
Oui, énormément, oui. Énormément. C'est des petites touches là qui se rajoutent les unes aux autres doucement. Et comme notre base de travail, comme je disais tout à l'heure, c'est l'émotion, on va travailler sur l'émotion. Voilà, j'ai ce morceau de texte. Comment on va l'adapter? Qu'est-ce que tu ressens? Ben, je ressens. Alors, lis-le, puis au bout d'un moment, dis-le, parce que bon, on commence à le connaître. Peu importe, dis-le de plusieurs façons. Qu'est-ce que tu ressens? De la colère, de la joie, voilà tout les humeurs qu'on connaît tous hein, depuis notre enfance et qu'on va chercher dans nos petits tiroirs personnels. Et voilà, ce morceau-là, pour moi, ça, c'est la colère, c'est la révolte. Eh bien, on va travailler là-dessus. Donc, s'il y a musicien, musicienne, eh bien, c'est pareil. Oui, moi aussi, c'est juste, je ressens ça, etc. Moi, en tant que metteur en scène, je vais renvoyer: ah, mais là, ta colère, elle est fausse. Ta colère, c'est pas une vraie colère, c'est une colère que tu plaques. Parce que tu t'es dit que tu allais jouer la colère, mais c'est pas une vraie colère. C'est quoi la vraie colère pour toi? Et puis finalement, on va se rendre compte peut-être que, mais non, c'est pas vraiment la colère, c'est plutôt de la tristesse, de la rancœur. Et alors voilà. Et on ajuste comme ça. Mmh. Et puis après, bon, on avance doucement, et puis on repart un petit peu comme on apprend un texte par cœur. On apprend 2-3 lignes, et puis 4-5, et puis on revient à la première, et puis on passe un petit peu. Et voilà. Mmh.
Et donc, le metteur en scène, c'est le premier spectateur, en fait. C'est aussi celui qui prend du recul et qui peut dire au comédien, voilà, ça, oui, ta si colère, tu... elle est fausse, quoi.
Oui, oui, mais c'est aussi, je dirais que c'est aussi quelqu'un qui, c'est une sorte, bon, là, je me réfère à notre travail sur l'homme-semence, par
D'accord,
exemple.
D'accord, ok.
On a monté l'homme-semence en 2010, jusqu'à l'année dernière, on l'a joué assez régulièrement, avec des pics, notamment au Festival d'Avignon, etc. Mmh. Mais c'est comme si on était un seul personnage à trois, voilà. C'est-à-dire que Laure était seule en scène. Laure, quand elle disait, elle déclamait, elle parlait, elle racontait, j'étais complètement avec elle. Mmh. Et en même temps, il y avait Violette Ayot qui passait par moi et qui allait sur. Et la musicienne, pareil. Ouais. Et à un moment donné, quand il y a une fausse note, on dit on arrête là, il y a quelque chose qui va pas. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ben Paul, ce que tu m'as indiqué tout à l'heure, là, je le sens pas. Ah, d'accord. Eh bien alors, oublie. Va là où tu sens. Et puis là, la musique, alors ça vient de moi. Après la musique, là, je verrai quelque chose de beaucoup plus rythmé, beaucoup plus. Ah oui, tu as raison. Et voilà, ça, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Mais c'est un travail de longue haleine. Hein. Et puis bon, j'aime aussi travailler avec les lumières. Donc après, moi, j'imagine comme des photos, des tableaux, des peintures. Il y a des images. Il faut que le public ressente ces images. Tiens, là, on pourrait mettre du rouge, là, on pourrait éclairer de là, etc., etc. Et avec nos moyens du bord, on rajoute aussi la lumière et le tout, tout ça pour l'émotion, au service de l'émotion, au service du texte. Hein, c'est pas pour n'importe quoi, quoi. Après, si on peut pas monter les lumières, il y a des lieux où c'est pas possible, ou des fois la musicienne est pas libre, ben, Laure dit le texte seul, voilà, peu importe. Ça s'est déjà produit. Mais quand tout est réuni, alors après, c'est tellement un travail d'union entre nous qu'on en devient des fois des passionnés, on devient des passionnés.
Oui, c'est un peu un travail d'alchimiste, en fait. Hein. On met tout ça dans notre chaudron, notre creuset, et hop, on fait... On étire un endroit, on explose un autre, on raccourcit, on met du silence, on se laisse. Mmh. Et se laisser, justement, comme Paul disait, là, se laisser vraiment habiter aussi par le texte, les personnages, l'histoire. Et tu as parlé aussi de l'Uvilletaio, enfin du personne qui écrit le texte. C'est important aussi, parce que tout à l'heure, c'est ce qu'on parlait.
Oui,
on ne peut pas la dissocier, je pense, en fait. C'est... Comme quand on joue Molière, de toute façon, je pense. Enfin, voilà, c'est pareil.
Oui, il est toujours présent.
Il est présent aussi. Oui, on le transporte aussi. Il est là, il est présent avec nous.
Mmh. Eh bien, si on écoutait un peu de musique, Jean-Marc.
Le pas du beau temps, le beau temps me dégoûte, tu me fais grincer les dents. Le bel azur me met en rage, car le plus grand amour qui me fut donné sur terre, je le dois au mauvais temps, je le dois à Jupiter. Il me tombe à un ciel d'orage. Par un soir de novembre, à cheval sur les toits, je fais un air de Brest avec des quittes putois. Allumer ses feux d'artifice, bondissant de sa couche en costume de nuit. Ma voisine affolée vint cogner à mon nez en réclamant mes bons offices. Je suis seul et j'ai peur, ouvrez-moi par pitié. Mon époux vient de partir faire son dur métier. Pauvre malheureux mercenaire, contraint de coucher dehors quand il fait mauvais temps, pour la bonne raison qu'il est représentant d'une maison de paratonnerre. En bénissant le nom de Benjamin Franklin, je l'ai mis en lieu sûr entre mes bras câlins. Et puis l'amour a fait le reste. Toi qui sèmes des paratonnerres à foison, que n'en as-tu planté sur ta propre maison? Erreur un peu plus funeste. Quand Jupiter alla se faire entendre ailleurs, la belle ayant enfin conjuré sa frayeur et recouvré tout son courage, rentra dans ses foyers faire sécher son mari. À partir de ce jour, je n'ai plus baissé les yeux. J'ai consacré mon temps à contempler les cieux, à regarder passer les nues, à guetter les stratus, à lorgner les nimbus, à faire les yeux doux au moindre cumulus. Mais elle n'est pas revenue. Son bonheur de mari avait tant fait d'affaires. Ce soir-là, de petits bouts de fer, il était devenu millionnaire. Elle avait emmené vers des cieux toujours bleus, des pays imbéciles où jamais il ne pleut, où on ne sait rien de tonnerre. Dieu fasse que ma compagne taille tambour battant, lui parler de la pluie, lui parler du gros temps. Au gueule, on a tenu tête ensemble. Un certain coup de foudre assassin dans le mille de mon cœur a laissé le dessin d'une petite fleur qui lui ressemble.
Donc voilà, ben on retrouve les livres en la parole avec Laure et Paul Bruno de la compagnie Bazar Compagnie de Mazan, donc qui ont mis en particulier en scène L'Homme Semence et puis d'autres livres et donc qui travaillent beaucoup sur cette notion de, comme on vient de le dire, de donner la parole à des livres qui sont d'abord que du papier à plat. Laure parlait tout à l'heure, au fur et à mesure du travail, de voir émerger, donner de la matière, enfin du relief et puis de l'épaisseur à des personnages qui peuvent sortir. Et on disait là, juste hors micro, que en fait, il y a aussi un autre élément. On parlait de la personne qui a écrit, de l'auteur, on a parlé du comédien, de la musique, de la mise en scène, mais on a aussi le spectateur. Et donc, chaque spectacle peut être différent en fonction des spectateurs. C'est ce que tu disais, Paul.
Oui, oui. Ben oui. L'ambiance de la salle est toujours différente, même dans une même salle. avec des représentations différentes, l'ambiance est différente. Ouais. Et ça, c'est un travail aussi du comédien. J'aime pas ce mot travail, mais c'est quelque chose que le comédien doit développer. Nous, on travaille aussi avec ça. Je redis encore travail.
Mais oui, mais c'est noble le travail.
Apprendre, ouvrir les pores de son corps pour capter cette énergie qui est là. C'est un petit peu aussi comme un prof qui peut-être va avoir... Le prof, il ne fait pas de l'art, et encore que. Mais un prof va passer des notions à une classe. Mmh. Et puis ces mêmes notions... avec une autre classe, elles ne vont pas du tout passer. Mmh. Et pourquoi ? Ce sont les mêmes notions. Les notions, elles n'ont pas changé. Lui, il n'a pas changé. Mais c'est la classe qui a changé. Et cette énergie de classe, il faudra aussi la captiver pour faire passer ces notions-là. Mais un comédien, c'est un peu pareil. Il faut qu'en même temps qu'il soit complètement dans son jeu, qu'il capte cette énergie qui vient des autres, que souvent ils ne voient pas avec les projecteurs dans le visage. On devine les spectateurs, mais on ne les voit pas. Mais on les ressent tellement fort. Je ne sais pas, c'est peut-être aussi quelque chose que les aveugles ressentent. Ils ne voient pas, mais ils savent s'il y a un mur, un arbre... Il développe les autres sens. Mmh. Et le comédien doit aussi développer ses autres sens qu'on a tous. Mais notre travail, c'est d'aller encore plus loin là-dedans.
Ça rejoint aussi ce que tu disais tout à l'heure lorsque vous avez assisté en Belgique à la représentation de l'homme semence après les attentats du mois de novembre. Forcément, il devait y avoir une énergie particulière qui n'aurait pas été la même s'il n'y avait pas eu les attentats.
Oui, complètement. De toute façon, on est. Oui, mais c'est vrai que le spectateur, on voit bien que les comédiens, ils nous calculent, comment dire, parce qu'ils nous regardent. On peut être dans l'émotion. On parlait de pleurer tout à l'heure. Et tout ça, c'est vrai que et ça, ils doivent le percevoir. Enfin, on sent bien qu'ils le perçoivent. Ils nous entendent éventuellement rire ou pleurer, selon le. Et donc, c'est.
On communie en fait. Hein. Oui. C'est une forme de communion, je pense. Et si on met un mur, nous, en tant que comédiens, devant, entre nous et le spectateur, ça reste froid, quoi. Alors qu'il faut justement, voilà, c'est vrai, incorporer tout ce qui se passe dans la salle. Et pour l'amener avec soi et pour amener les gens dans notre monde, il faut les accepter aussi. Accepter quelqu'un qui va ronfler aussi, ça fait peut-être qu'il est très bien, en fait. Hein, que s'il se passe pour lui, c'est très bon. Et c'est vrai, ça peut arriver. Hein, c'est pas se sentir... blessé ou voilà, parce que se dire gna, mais non, chaque personne aussi a ses raisons et je pense qu'il faut, voilà, il faut tout prendre et tout faire sien et hop, et amener les gens dans son monde, ouvrir les portes nous aussi de notre monde pour mieux les amener, quoi.
Et on travaille aussi avec le jeune public, donc oui. Quelquefois, bon, ce sont nos propres créations. Mmh. Quelquefois, ce sont aussi des œuvres, bon là, cette fois des œuvres connues, comme par exemple La sorcière du placard au balai de Pierre Gripari, que beaucoup de personnes connaissent, et qu'on a monté avec trois personnages et des masques de comédiens et tout ça. Et là, c'est pareil, le public d'enfants, il faut l'attraper, quoi. Mmh. Et on est plus dans le conte, dans le rire, un travail aussi plus clownesque, mais peu importe, c'est pareil, hein, c'est la même chose, hein.
Alors justement, là vous, en ce moment, donc vous avez beaucoup joué L'Homme Semence, on en a parlé, en particulier à Avignon, etc. Et là, en ce moment, vous allez travailler sur Sous le Vent, on peut s'attendre à voir quelque chose dans combien de temps ? 10 ans ?
Bah, ça dépend vraiment quand est-ce qu'on va s'y mettre, parce qu'on a du travail là un petit peu à venir, mais peut-être dans l'été, on peut commencer à faire les lectures, justement, etc. En général, il faut compter entre 9 mois et 12 mois.
Comme un bébé, quoi. Hein.
Comme un bébé. pour faire quelque chose de présentable.
D'accord.
Allez, on va se dire mai 2017.
Ouais, voilà.
D'accord. Et donc, en ce moment, alors où est-ce qu'on peut vous voir, vous trouver, vous rencontrer, voir ce que vous faites sur scène?
Alors,
vos prochains spectacles?
La prochaine fois qu'on va présenter un spectacle, alors c'est un petit peu particulier, ça fait partie aussi de notre éventail de création. On va jouer dans le département, là, mais plus au nord, à la limite des Hautes-Alpes, à Saint-Vincent-les-Forts. Donc où il y a un fort Vauban qui est restauré depuis de longues années par un couple passionné. Et il y a une association qui s'appelle les Amis du Fort Saint-Vincent qui organise pour se faire connaître et puis faire un petit peu d'argent aussi pour leurs travaux, des manifestations. Donc cette année, ils ont fait appel à nous. Et là, nous avons créé 8 scénettes pour un spectacle itinérant qui va parler de la vie de ce village, aussi bien au niveau anecdote qu'au niveau historique. Et entre parenthèses, il y a quand même une des scènes qui est importante pour le département aussi des Alpes de Haute-Provence, c'est une scène sur Journeau. D'accord. Parce que Jean Journeau a été enfermé à la Libération à Saint-Vincent-les-Forts pendant 4 mois, je crois. Et il a écrit des petites anecdotes, un petit journal, oui, sur un carnet de bord, quoi, au quotidien, donc sur l'extérieur, sur la beauté de la montagne, la nature comme d'habitude, mais aussi sur ce qu'il ressentait, sur la difficulté du travail avec la collaboration, il a été accusé de collaboration, oui, justement, mais sur la vie en communauté, la cohabitation, la difficulté de vivre avec ses co-détenus, avec les, bien sûr, comme tout le monde dans la société, il y avait des personnes avec qui on s'entend, d'autres on s'entend moins bien, mais bon, on a un petit peu le choix quand même de privilégier des relations ou d'autres, alors que là, tous les uns sur les autres, 24 heures sur 24, bah, t'es obligé de vivre ça, donc c'était intéressant, la vie d'un détenu, quel qu'il soit, quoi. Voilà, ça c'est une des scénettes, mais il y en a d'autres. Voilà, la prochaine fois, donc ça va être le 15 mai, donc j'en profite pour faire la pub pour cette association. Oui, donc le 15 mai à Saint-Vincent-les-Forts, le spectacle va partir du repas, qui le repas va être autour de 12h, l'apéro 12h, 12h30, et le spectacle va vraiment démarrer à 15h, mais déjà pendant le repas, nous proposons des animations, des chants, etc. Et ça va durer à peu près 2h, 2h30, donc pour se terminer autour de 18h avec la cuvée du fort sur la petite place de Saint-Vincent. Voilà.
D'accord. Et sinon, vous faites beaucoup de spectacles aussi pour les enfants, la jeunesse, on en parlait. Ouais. Et vous intervenez dans les écoles aussi,
Alors oui, ça peut arriver. Donc il y a maintenant avec le remaniement des rythmes scolaires qui est mis en place, je crois que c'est la deuxième année. Enfin chez nous ça fait 3 ans parce qu'ils avaient fait une année d'essai. J'ai intervenu toute une année à l'école primaire donc chez nous. Donc ça nous arrive, un petit peu moins ces derniers temps, mais ça nous est beaucoup arrivé d'intervenir dans les écoles auprès des enfants en difficulté aussi. Des enfants et des plus grands aussi, enfin, toi aussi beaucoup, l'adolescence en difficulté.
Mais c'est un rôle éducatif, c'est un rôle de faire prendre conscience aux jeunes de quelque chose ou...
Mais oui, on espère. Oui.
Ben, la prise de confiance en soi.
De se mettre déjà en lien avec soi, d'arriver à se centrer et de se mettre en lien avec soi, avec ses émotions. Déjà, ça,
c'est une demande qui vient de l'école, des parents, des enseignants. Alors là, on vit qu'il se passe quelque chose.
Là, c'est à l'école, en fait.
C'est pas que du divertissement, quoi. C'est un autre rôle.
Les ateliers qui sont mis en place à l'école, c'est une demande de l'école, c'est une proposition en fait d'ateliers artistiques ou sportifs pour les enfants. Mais le but, c'est pas de passer une heure à jouer et à faire ce qu'on veut. C'est vraiment d'initiation en fait au métier de comédien. Donc voilà, il y a bien sûr il y a un cadre, il y a des règles comme tous les jeux en fait. Il faut arriver à respecter les règles. Et après les enfants, bon, mais voilà, c'est ce que je disais, ça les met en lien avec eux, avec leurs émotions, ça peut les aider aussi à prendre confiance en eux pour prendre la parole en public, à exprimer des émotions, des sentiments s'ils n'y arrivent pas. Enfin,
apprendre à écouter l'autre.
À écouter l'autre, à respecter lorsque l'autre s'exprime, attendre son tour. C'est très éducatif.
Développer le langage, développer les mouvements,
son corps, voilà. Mettre son corps en mouvement.
Mettre sa propre marionnette en jeu. Ouais. Bah, après, on donne des spectacles aussi,
oui,
hein, pour les écoles.
Le spectacle, voilà. c'est
on donne
pour
des spectacles
jeunesse,
pour les écoles. Bon, par exemple, La sorcière du placard au ballet pour les écoles, un exemple typique, Vitrolles, donc près de Marseille, là, près de Marignane. Il y a un cinéma qui s'appelle le cinéma Les Lumières, qui aussi propose des spectacles. Mmh. Un cinéma d'art et d'essai. Donc, nous avons joué plusieurs fois là-bas. La sorcière du placard au ballet. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les écoles du secteur viennent avec des bus. Et puis, voilà, y a, la salle est remplie de 4 ou 5 classes. Et puis, on joue le matin, on joue l'après-midi. Bon, après, c'est un peu à la chaîne, là. Mais c'est très sympa, quoi, très dynamique. Nous, ça nous fait bien avancer, ça. Voilà. D'ailleurs, à Vitrolles, on a joué aussi Marseille Rouge Sang.
D'accord.
Un des ouvrages des éditions Parole.
Ouais.
D'Éric Schultes. Ouais. Voilà. Donc, pendant le Festival du Polar 2015, en février 2015. Après, on joue aussi pour les tout-petits.
Ouais.
Surtout la période de Noël, on joue dans des crèches, dans des écoles maternelles. Dans ce qu'on appelle les regroupements d'assistantes maternelles, donc les nounous qui accueillent les bébés chez elles, les petits-enfants, qui se retrouvent dans une salle. Voilà, et nous, on donne un petit spectacle tout doux. Alors, en général, ce sont des créations. Hein.
Voilà. D'accord.
Puis on peut parler aussi qu'on va, pour la deuxième année, faire un petit festival. Le festival de Bazar Compagnie. Cette année, c'est le premier week-end du mois de juillet. Je crois que c'est le 1er et le 2 juillet. Donc avec une programmation, au programme, il va y avoir un atelier théâtre, donc Paul anime. Et cette année, nous avons travaillé autour des Fables de La Fontaine.
Donc, c'est encore des écrits. Vous partez d'écrits existants.
Oui, mais là, on utilise aussi le clown.
On a travaillé
du clown, voilà, on rebondit.
Non, mais il y a toujours des écrits souvent, quoi. D'accord.
Donc, il y aurait
ça va se passer quand?
Alors 1er et 2 juillet, vendredi 1er, samedi 2 juillet. Et donc, avec l'idée, c'est de faire du théâtre et de la musique. Et aussi, il va y avoir des exposants, des copains plasticiens, des créateurs de bijoux, etc., qui vont aussi exposer dehors. Donc, ça sera à Mormoiron, ou à Hangar Lamy.
Près de Carpentras.
Ouais. Près de Carpentras, voilà. Et puis donc voilà, on va proposer nos dernières créations, donc le spectacle de clowns autour des Fables de La Fontaine, et peut-être justement aussi le soir les lectures de Giono que nous allons reprendre, travailler un petit peu plus et les présenter.
D'ailleurs, c'est pour ça que je suis arrivé un petit peu en retard, c'est parce que j'étais avec Jacques Morin,
qui est un grand connaisseur de Giono.
Voilà. Donc je viens de passer un moment très très dense là avec lui, très très chaleureux. Oui, c'est vrai que. Avec Maria Borelli, nous avons deux projets. C'est aussi parler de Giono et du pacifisme. Mmh. Voilà. Donc, pour ce festival, nous allons étoffer la petite scénette dont je parlais tout à l'heure de Saint-Vincent-les-Forts, qui va durer un quart d'heure, hein, à peu près un quart d'heure, 20 minutes, parce qu'on ne peut pas passer une heure sur Giono là-bas, puisqu'il y a toutes les autres en scénette, et puis on va ennuyer le public, ce n'est pas le lieu, quoi. Tandis que là, ben on est présenté, je pense, une heure de lecture théâtralisée ou peut-être un petit spectacle déjà étoffé. On sera plusieurs avec musique. Voilà.
Et le lendemain, il y aura donc aussi Frédéric Chiron et Philippe Henry dans des textes de Jacques Prévert.
D'accord.
Plus des musiciens le soir. Voilà.
Et
donc.
Le dimanche matin à 11h.
Bon. Il y a d'abord le petit-déj.
C'est ça.
Il va y avoir
pyjama clown.
Pyjama clown, voilà. Un petit spectacle pour les enfants, mais précédé
le samedi matin. Samedi matin.
Pardon.
C'est le vendredi
et
le samedi.
Le samedi matin, 11h. Donc les enfants pourront venir en pyjama, on leur offrira un petit déjeuner, puis on présentera un petit spectacle pour eux.
D'accord. Ben, en tout cas, voilà. Donc, on arrive au bout de cette émission. Merci donc à Laure et Paul Bruno de la compagnie Bazar Compagnie. Nous avons expliqué comment on peut arriver à partir de livres, de créer des spectacles, de traduire de l'écrit en faisant quelque chose de vivant. Voilà. Donc, on vous retrouve, alors 15 mai, hein,
Saint-Vincent-les-Forts,
et puis après, début juillet pour la fête de Bazar, fête théâtrale de Bazar.
À Mormoiron.
Voilà. On va écouter un petit peu de musique.
Juste pour Saint-Vincent Lefort, si vous comptez vous rendre dans ce très beau village, et ce serait avec plaisir de vous rencontrer, n'oubliez pas de réserver. Vous allez sur le blog des amis de Saint-Vincent Lefort. Les amis de Saint-Vincent. Les amis du Fort Saint-Vincent, je vais y arriver. Les amis du Fort Saint-Vincent. J'ai pas le numéro en tête, mais vous trouvez ça sur le web. Alors, musique avec Walk of Life de Dire Straits.
Voilà, donc on vient d'écouter Dire Straits, ce que nous a annoncé Bruno avec beaucoup d'éclat, voilà, un vrai comédien.
Alors Paul, c'est Paul Bruno, mais bon, j'ai l'habitude. Voilà.
Et donc, merci à vous deux d'être venus vous parler de ce travail que je vais élever des livres qui sont des choses sur du papier plat, même si c'est pas plat, aller à quelque chose comme disait Laure en trois dimensions, quoi, du vivant, voilà. Donc c'est vrai que vous travaillez avec des choix qui sont pas toujours faciles, de livres non classiques pour donner la parole à un certain nombre d'auteurs. Voilà.
Donc, on vous dit aussi merci beaucoup de nous donner la parole, justement, de nous recevoir. Merci pour ce partage.
D'accord.
Voilà. Merci.
Eh ben, à bientôt. Et là, on va écouter La Chaconne de Jean-Sébastien Bach et on vous expliquera pourquoi tout de suite derrière. On va pas l'écouter entière parce que ça dure un quart d'heure, mais on va écouter quelques minutes d'un morceau assez particulier.
Thank you.
Donc, on écoute la chaconne de Jean-Sébastien Bach, qui est le dernier mouvement de la seconde partita en ré pour violon seul de Jean-Sébastien Bach. Donc, c'est un morceau écrit dans des conditions un peu particulières. Et ce morceau de musique a inspiré un écrivain qui s'appelle Jean-Pierre Vesser et qui a fait un roman qui est une transcription de romanesque de ce texte, parce que ça l'avait beaucoup touché quand il avait 13 ans. Il a été, on peut dire, renversé par ce morceau de musique. Il a fortement touché. Et à la retraite, bien plus tard, donc, c'est un morceau qui l'accompagnait toute sa vie. À la retraite, il s'est mis à écrire un roman qui traduit cette musique. Et il expliquait aussi que quand il calait, des fois ça arrive quand on écrit de caler un peu, il se mettait dans le noir et puis il repassait la musique et l'écriture repartait. Et donc, voilà, il a écrit un très beau roman qui s'appelle Chaconne et qui a touché beaucoup de gens, dont une grande violoniste qui s'appelle Virginie Robiliard, hein, qui enseigne le violon à Lausanne, qui a créé une école de musique à Caracas et qui a fait beaucoup de concerts dans le monde entier. Elle a découvert ce livre, elle a été à son tour touchée par la façon dont on pouvait interpréter, hein. Là, on est dans l'autre sens par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure avec nos amis comédiens. Donc on passe du livre à la musique et de la musique au livre. Voilà. La musique peut engendrer de l'écrit. Et donc Virginie Robiliard, qui a découvert ce livre, a tout de suite cherché à joindre l'écrivain Jean-Pierre Vesser pour lui dire « Quand vous voulez, je viens jouer pour vous la chaconne ». Et c'est ce qui va se passer ce vendredi, donc dans deux jours, vendredi 15 avril, au monastère de Ségriès, à Moustier-Sainte-Marie, à 20h30. Donc il y aura une espèce de soirée entre lecture et concert. C'est-à-dire qu'il va y avoir des lectures d'extraits du livre par l'auteur Jean-Pierre Vesser et par une comédienne, Claude Fauss. Et Virginie Robiliard répondra avec son violon à chacun des extraits lus. Donc ça risque d'être une soirée assez magique. Donc on vous invite tous à venir puisque c'est gratuit. Donc c'est au monastère de Ségriès à Moustier-Sainte-Marie. Mais on le met sur le site ainsi que les coordonnées pour nous joindre. Et vous trouvez ça aussi sur le site des éditions Parole. Donc voilà. Donc une soirée étonnante sûrement. À ne pas manquer pour ceux qui sont pas loin de cet endroit. En plus, c'est un endroit magique, quoi, le monastère de Ségriès. C'est un endroit dont parle aussi Maria Borelli dans Sous le vent, puisque dans ce déplacement, elle passe à côté. Voilà, donc vendredi 15 avril à 16h, donc c'est dans deux jours, à 20h30, on vous attend tous au monastère de Ségriès à Moustier. Alors, je voulais parler aussi d'un livre que je trouve assez excellent, qui est aux éditions du Larzac, hein, pour ceux qui se rappellent que c'est un lieu connu. Ça s'appelle La brebis galeuse et le tome 1, La vie du troupeau. Alors, c'est assez fantastique par Muriel Lacan. Ce sont donc des petites BD absolument géniales. On est mort de rire, quoi, voilà, sur les bergers, les brebis. Et, donc, c'est une brebis, évidemment, qui ne veut pas être comme les autres et qui en fait voir à tout le monde. Et voilà. Donc, dans les éditions du Larzac, collection du pain sur la planche. Voilà. La vie du troupeau, qui est le tome 1, on attend les autres, La brebis galeuse de Muriel Lacan. Sinon, on a cité comme livre tout à l'heure pendant notre discussion L'homme semence de Violette Ayot, Marseille rouge sang de Éric Schultes, et puis donc aussi Sous le vent de Maria Borelli. Voilà, donc l'émission touche à sa fin. Il y a plein de choses qui se passeront dans la vallée de l'Aas. Il va y avoir un salon du livre le 22 mai. Et puis, il y a, voilà, si vous suivez l'actualité de tout ce qui se passe autour du livre, il y a plein de choses partout. Voilà. Écoutez, merci à tous et puis à très bientôt. Paul, tu voulais dire quelque chose ?
D'accord pour venir jouer dans le 04,
hein, voilà,
que ce soit.
Bien sûr, mais on vous accueillera dans le 04 et dans le 83 aussi, qui est pas loin, et ailleurs avec plaisir. Merci Jean-Marc pour avoir fait la technique, et on se retrouve le mois prochain pour parler encore de livres et de tous ceux qui leur donnent vie, comme aujourd'hui, et les comédiens qui mettent les livres en scène. À bientôt.
Merci.